Studio Tamani, voici les informations en français.
Fidèles auditeurs de Studio Tamani, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Le mode de célébration du 22 septembre alimente les débats au sein de l'opinion publique, alors que certains estiment que le 64e anniversaire de l'indépendance mérite un jubilé en pompe. Des historiens regrettent le manque d'engouement autour de l'événement. Un dialogue intergénérationnel sur la lutte contre le mariage forcé et l'excision a pris fin hier à Bamako. Au cours de la rencontre, des propositions d'abandon de ces pratiques ont été faites. C'est parti depuis hier pour la campagne du Hajj 2025. Le quota des pèlerins maliens et le prix restent les mêmes que celui de 2024. Les détails à suivre dans ce journal. À la présentation, Adam Amadou Haïdara, Ibrahim Sanogo est à la mise en onde. Vendredi 20 septembre 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le Mali va célébrer ce dimanche 22 septembre 2024 le 54e anniversaire de son indépendance. Autrefois, cette accession à l'indépendance était fêtée avec enthousiasme, mais depuis des années, elle perd de plus en plus son éclat. Selon certains, cette situation s'explique par l'insécurité, tandis que pour d'autres, c'est le manque d'engouement dû à la décentralisation.
L'engouement autour de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali a effectivement connu un changement dans plusieurs localités du Mali. C'est du moins ce qu'expliquent certains responsables de jeunes à Bafoulabé, Bankass et Badiangara.
La fête ne se célébrait plus comme avant, alors que présentement avec l'insécurité, rien n'est facile.
Vu la situation qui prévaut en quoi au Mali, particulièrement dans les cercles de Bankass, on ne peut pas parler de la fête de l'indépendance.
Maintenant, avec la décentralisation, ça fait que l'engouement diminue beaucoup parce que très souvent les grandes villes ne tiennent que pratiquement à ces villages.
Pourtant, cette célébration était l'une des plus grandes fêtes du Mali selon des historiens. Modibo Keïta, historien, indique qu'elle a une importance capitale dans la manifestation des Mali nouveaux.
Dans toutes les régions du Mali, on tient les drapeaux partout dans les rues. C'était l'hymne national qui était répété en français et en bambara. En amont, bien sûr, de cette fête, les gens étaient mobilisés partout. L'importance de préserver cette célébrité est tout simplement de mettre en exergue toute la souveraineté.
En outre, la population espère un retour définitif de la paix pour que cette fête puisse retrouver son ampleur d'antan.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La campagne du Hajj 2025 a été officiellement lancée hier 19 septembre par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone. C'était à la maison du Hajj à Bamako. Des nouvelles mesures sont annoncées. Idrissa Sako pour le compte-rendu.
Nous sommes ici ce matin pour informer la population malienne de lancement de la campagne du Hajj 2025.
C'est par ces mots que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a lancé la campagne 2025 du Hajj. Il s'agissait pour lui d'informer les pèlerins et les agences de voyage des dispositions à prendre pour la réussite du Hajj 2025.
D'abord, allez vite avec les inscriptions. Deuxième chose, il y a un système de plateforme qui est instauré cette année pour éviter la distribution anarchique des comptes. Troisième chose, la transparence de la gestion.
Pour sa part, Dr Abdoul Fattah Cissé, directeur général de la maison du Hajj, a rassuré les futurs pèlerins et les agences de voyage que tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement du Hajj 2025.
Nous avons amélioré les conditions depuis l'année dernière. Cette année, ces acquis seront renforcés. Nous avons pu remplir le cahier des charges et les textes qui nous régissent sont bien respectés.
Tout comme l'année dernière, le quota accordé au Mali pour le Hajj 2025 s'élève à 13 325 pèlerins et le prix du billet aller et retour reste 4 166 425 francs pour la filière gouvernementale et 4 675 000 francs CFA pour la filière privée.
La montée du niveau des eaux du fleuve continue à Bamako et à Mopti. Certains quartiers de la capitale riverains du fleuve sont toujours inondés. Des familles continuent de réparer les dégâts causés par les eaux. Et au centre du pays, une forte crue est signalée à Mopti. Une situation de plus en plus inquiétante pour les riverains. Moussa Malé Sissoko.
À Bozodaga, les dégâts causés par la montée des eaux du fleuve sont toujours visibles. On y constate les débris des maisons effondrées, des kiosques éparpillés et des eaux stagnantes dans des concessions. Ces riveraines nous parlent de leur souffrance.
Je suis avec mes enfants et mes petits-enfants. Les dégâts sont énormes. Certains sinistrés ont déménagé dans les écoles les plus proches. On ne peut même plus dormir dans nos chambres. On dort ailleurs.
Les hauteurs d'eau observées sur le Bani à Sofara et la confluence Bani-Niger à Mokti sont estimés respectivement à 6,2 mm et 5,90 mm à l'échelle de Dekri, et cela depuis le 20 août dernier. Les habitants de la zone expriment leur inquiétude.
Le fleuve déborde. Les dégâts sont perceptibles dans les localités riveraines du fleuve Bani. Nous sommes à Komogel 2. Les eaux du fleuve ont déjoué nos pronostics. Nous sollicitons de l'aide.
À Koulikoro, le niveau d'eau du fleuve a atteint les 635 cm à la date du 17 septembre 2024. Ces données ont été communiquées par le rapport journalier de l'hydraulique.
Comme annoncé dans les titres, un dialogue intergénérationnel sur le mariage forcé et l'excision a pris fin hier à Bamako. Le but de la session était d'amener les panélistes à faire des propositions d'abandon de ces différentes pratiques. Elles étaient une vingtaine de participantes venues de Bla, Barawuli et Sang à échanger sur ces cas de violence basés sur le genre. La rencontre est financée par le projet Chélid. Docteur Mamadou Malik Sow, formateur, est au micro de Mariam Koulibaly.
Nous avons des indicateurs à la suite également des études, des rapports d'études. Aujourd'hui, le flot fait pratiquement 91% des cas de mariage forcé et précoce. Et ce taux est plus élevé presque partout. Mais quand on se réfère effectivement à l'excision, le phénomène est plus rampant au niveau des régions du Sud, Kaï, Koulikoro, Ségassou, Ségou. À défaut pour l'instant des instruments juridiques de répressif du fléau, qu'on trouve également d'autres mécanismes appropriés de gestion pour réduire le fléau. Exemple, faire les sensibilisations au niveau du CNT. Faire en sorte que nous puissions créer des réseaux de partenaires stratégiques pour pouvoir au moins impulser une dynamique de conscience sociale, que ce soit sur le plan religieux, culturel, social. Et pourquoi ne pas demain également inclure dans les curricula de formation au niveau des écoles scolaires.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La culture n'a pas été en marge de la construction de la nouvelle République du Mali au lendemain de l'indépendance. Tous ces pans ont joué leur partition dans l'émergence du Mali indépendant. Ils ont contribué à un éveil de conscience et aidé les autorités d'alors à cultiver le patriotisme, le don de soi, la citoyenneté, entre autres. En prélude au 54e anniversaire de l'indépendance du Mali, Studio Tamani s'intéresse au rôle et la place de la culture sous la Première République. Le dossier de la semaine est réalisé par Aïssata Diarra avec le concours de notre correspondant à Ségou, Mohamed Sissé.
Bazoumana Sissoko, une voix presque indissociable de l'histoire du Mali indépendant. Ce griot monument de la culture malienne a, par ses chansons, cultivé l'amour de la patrie et la fierté d'appartenir au Mali. Comme lui, beaucoup d'acteurs culturels n'ont pas été en reste. Historien à ses goûts, Zoumana Kane explique que les pères fondateurs se sont appuyés sur la culture pour soutenir leur vision de développement pour le pays.
Des jeunes ont été envoyés dans des écoles grande formation en montrant que nous sommes nous-mêmes une culture de sensibilisation, démonstration de notre savoir-faire, la musique avec toutes ses composantes, la poésie, les danses.
Bien que venu après d'autres formes d'expression culturelle comme la musique, le cinéma a aussi joué sa partition. Les premières réalisations ont permis de faire connaître les valeurs sociétales, affirme l'historien Zoumana Kane.
Les premières images qui ont été projetées, c'était pour démontrer que par nos activités traditionnelles, l'agriculture, l'élevage, la pêche, on peut partir de là pour se développer. Il y a par exemple des mains en Anguilla, je me souviens de ces films-là. Des jeunes ont été envoyés dans des écoles pour des réalisations. Les grands techniciens en caméra, en ceci, cela, qui ont fait successivement des scénarios qui s'adaptent à nos valeurs sociétales.
Les autorités de la Première République ont aussi mis en place des politiques culturelles. Cela a donné naissance à de nombreuses formations nationales. Celles-ci avaient pour mission mission de renforcer l'unité nationale et aussi de faire la promotion de la culture malienne, nous dit Adama Traoré, président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA.
L'ensemble instrumental national, les ballets maliens, la compagnie du théâtre national et toutes ces formations ont pour mission de représenter le pays. Les artistes sont mobilisés pour l'unité nationale.
Certains artistes de ces formations nationales ont été récompensés par les autorités de l'époque, selon le président de la FEDAMA, Adama Traoré. Cela avait pour but de les encourager dans leur mission, dit-il. Pour nos interlocuteurs, cet engagement des hommes de culture au lendemain de l'indépendance doit continuer de nos jours pour cultiver le patriotisme chez les citoyens.
Exactement 8 heures passées de 10 minutes dans ce studio, ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. C'est pas tout, vous pouvez également réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. Bonne journée de vendredi à tous, mais restez toujours à l'écoute juste après le magazine, la version Bambara avec Idrissa Sakho. L'autisme, une maladie jadis peu connue au Mali, apparaît de nos jours comme un véritable problème de santé publique. Ce grave trouble de développement réduisant la capacité à communiquer et à interagir affecte au moins 7,8% d'enfants au Mali, selon une première étude de thèse réalisée en 2012. Sa prévalence est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Les enfants autistes rencontrent des difficultés de communication, de comportement et d'interaction sociale, ce qui les exclut souvent de la vie scolaire et sociale, les laissant à la charge des parents. Scolarisation des enfants autistes, c'est le thème du magazine Tous les enfants du Mali, réalisé et présenté par Ali Cissé.
Joubeïru Hiranga est un parent d'enfants autistes à Bankas dans la région de Bandjangara. Ce père de famille dit être arrivé à scolariser sa petite fille autiste qui détient aujourd'hui un diplôme d'études fondamentales.
J'ai une petite fille atteinte du trouble du spectre autistique mais comprend parfaitement ce qu'on lui dit. Je l'ai envoyée à l'école en la confiant à ses encadreurs tout en expliquant son problème. Elle a étudié et détient aujourd'hui un diplôme d'études fondamentales. Cependant, elle n'a pas été orientée pour les études secondaires général ou professionnel. Donc je l'ai orientée vers l'apprentissage de la couture qu'elle exerce bien. Elle fait de la broderie et vend des habits.
Comme lui, de nombreux parents d'enfants autistes s'activent à Bamako et à l'intérieur du pays pour l'intégration et la scolarisation de leurs enfants. Cela malgré les défis. Écoutons leurs témoignages.
Nous n'avons pas l'assurance que les autres parents ont dans le suivi de l'éducation de leurs enfants. Parce que mon enfant est différent des autres. Ce n'est pas facile.
J'ai un petit garçon qui parle peu et qui est toujours isolé. Je l'ai remarqué depuis les premières années de sa naissance. Il est inscrit au même titre que les autres enfants à l'école. Souvent, ses camarades viennent le chercher, mais il préfère s'isoler et regarder la télé.
Les enfants autistes ne peuvent pas être scolarisés au même titre que les enfants ordinaires, soulignent des pédagogues. Pour Seydou Loa, pédagogue, les enfants autistes ont besoin d'une attention particulière et doivent suivre une éducation spécialisée.
Une intégration des enfants ou une inclusion des enfants autistes dans l'école ordinaire, cela est pratiquement impossible dans la mesure où les enfants autistes sont des enfants déficients. Donc ces enfants-là ne peuvent pas être intégrés dans l'école ordinaire comme les handicapés physiques parce que l'école ordinaire n'est pas équipée pour les accueillir. Les enseignants ne sont pas formés pour les accueillir.
Famori Sissogo, enseignant à Bafoulabé, région de Kaé, partage plus ou moins cet avis. Cet instructeur à l'école de Mahina avait dans sa classe un élève autiste. Grâce à l'appui, au soutien de sa famille et de l'établissement, le jeune élève est arrivé à s'intégrer, dit-il.
Il fait comme les autres ont fait. Seulement, il a des petites difficultés, mais en l'aidant et puis en la poussant vers les résultats, il parvenait à les faire. Il se voyait un peu à l'écart, mais avec le concours des uns et des autres, il a pu intégrer le groupe à 2 mois, 3 mois après la reprise. Ce que moi je conseille aux autres élèves, ce cas peut arriver à tout un chacun. Il ne faut pas le laisser seul.
L'autisme peut être pris en charge. Si les diagnostics tôt, affirment des pédiatres. Docteur Oumar Habibou Diallo, pédiatre, indique que ces enfants peuvent être individuellement traités par une équipe spécialisée.
Il en existe des soins appropriés pour aider ces personnes souffrant d'autisme. Et plusieurs personnes vont participer à cette intervention, notamment les parents, les professionnels de la santé, les enseignants et les accompagnateurs. Le premier axe est la sociothérapie et cela se fait généralement à la maison, dans les lieux habituels de vie et avec la famille. Le second axe repose sur la psychothérapie, surtout réalisée par des pédopsychiatres.
Les spécialistes ajoutent qu'à ce jour, il n'existe aucun traitement médicamenteux pour guérir l'autisme. Cependant, ils indiquent que certains médicaments sont prescrits dans le cadre de la prise en charge d'autres troubles associés aux troubles du spectre autistique.